Chapitre 6. Croyant lire de la désapprobation sur les traits de Jane, Ferrante Escobar s'explique. Je ne traite qu'avec des clients riches et fiables, soucieux de se protéger au quotidien dans un monde de plus en plus dangereux. Ils n'ont pas envie qu'on vienne confisquer leurs armes le jour où sera promulguée la loi martiale. Alors ils préfèrent rester discrets. Le trafiquant cherchait à se justifier de façon injustifiable, mais Jane n'avait pas envie de se le mettre à dos. Il lui fallait rejoindre la vallée de Borrego l'après-midi même. Monter cette opération lui avait déjà pris un temps précieux. Il n'était pas question de prendre davantage de retard. « Combien ?» insista-t-elle. Le visage de Ferrante se chiffonna. « Les mensonges gouvernent le monde depuis toujours, mais nous vivons à une époque plus trompeuse que jamais. Tout ce qu'on veut voir à la télé, lire dans les journaux ou sur le net, vise à nous cacher la vérité, à protéger les mécréants, à renforcer le pouvoir de dirigeants plus puissants que tous les monarques du passé. « Je suis assez d'accord, » approuva Jane, « mais quel rapport avec le prix de ce pistolet ?»« Tout le monde dit que vous êtes un monstre, » répliqua le jeune homme sur un ton fébrile en ne la quittant plus des yeux alors qu'il avait eu tant de mal à croiser son regard auparavant. Ils s'appliquent tous à vous décrire sous les traits d'une créature maléfique digne d'un mauvais film de Batman. Mais les gens commencent à se poser des questions sur Internet, persuadés que vous avez découvert des vérités dérangeantes pour nos gouvernants. Tout en continuant à poser sur Jane un regard brûlant, Ferrante posa la main droite sur sa poitrine, puis la main gauche sur la droite, comme s'il voulait empêcher son cœur d'éclater. Dans le même temps, sa voix se fit plus douce, traduisant un sentiment que Jane n'aurait pas su définir. « Les gens pensent que vous avez découvert un complot majeur, mais que vous ne savez pas de quelle façon le dénoncer à cause de la corruption qui règne à tous les niveaux du système. Alors vous êtes condamné à fuir pour rester en vie. Et vous, que pensez-vous ? » L'angoisse sur son visage céda la place à une immense tendresse. « Je pense que vous êtes l'incarnation de la vérité dans un océan de mensonges. J'ai chez moi la reproduction d'un tableau exposé au Louvre. On la voit vêtue de son armure lors du couronnement de Charles VII. « Non !» le coupa Jane. « Vous ne lui ressemblez pas, mais vous portez une armure, vous aussi. » Gênée de tant de révérences, Jane voulut se défendre. « Je ne lui ressemble en rien. Dieu parlait à Jeanne d'Arc, du moins le croyait-elle. Mais il ne m'a jamais parlé. Je me suis engagée dans ce combat pour des raisons égoïstes. Je voulais réhabiliter mon mari et sauver mon fils. C'est bien contre mon gré que ma lutte a pris une autre ampleur. Je ne suis pas faite pour supporter un tel fardeau. Je ne me sens pas capable de sauver cette putain de nation tout entière. » Je peux très bien mourir demain. Il y a même de grandes chances que je sois morte. Je me sens lasse et j'ai peur. Je ne me fais guère d'illusions sur la protection de Dieu ou d'un ange gardien quelconque si un salopard essaye de me tirer une balle en pleine tête. » Le geste de Ferrante, les mains posées sur son cœur, pouvait paraître aussi mélodramatique que ridicule. Mais son admiration se trouva décuplée par les dénégations de Jane. « Si j'avais vécu au XVe siècle... et que j'avais assisté au couronnement de Charles VII, je lui aurais fait la même requête. Écoutez-moi, Ferrante. Je refuse de jouer un rôle qui n'est pas le mien. Je n'ai rien d'une sainte, croyez-moi. J'ai les deux pieds dans la boue de la réalité, et je me contente d'avancer comme je le peux, en commettant mon lot d'erreurs. Je baigne dans la boue et le sang. » Mais rien n'aurait pu détourner le jeune homme de son objectif. « Je ne demande que votre bénédiction. » « Je vous demande juste de poser vos mains sur ma tête et de bénir mon existence. » Si elle s'exécutait dans un élan de miséricorde, sans aucune illusion sur les pouvoirs qu'il lui accordait, Ferrante en sortirait sanctifié. Il y verrait la justification de sa vie, de ses actions. Elle se rendrait coupable d'imposture, mais elle ne pouvait s'autoriser à le contrarier. La vie de Trévis en dépendait. Elle s'était bien montrée capable de mentir et de tuer pour son fils, alors pourquoi ne pas feindre d'avoir reçu la grâce divine ? mais elle ne pouvait se résoudre à lui donner sa bénédiction, sans vraiment comprendre quel défaut à sa cuirasse la plaçait dans une telle impasse. Elle posa son regard sur les quatre tableaux, tandis que résonnaient dans sa tête les paroles d'Enrique. « C'est un drôle d'oiseau. Il fait une fixette à propos du sang. Je vous laisse la surprise. » Le sang en question ne symbolisait chez Ferrante Escobar ni la violence, ni la vengeance, ni la haine, mais le sens du sacrifice, la rédemption à travers la souffrance. Jane, qui avouait elle-même avoir les deux pieds dans la boue, pouvait le comprendre. Elle baissa les yeux et son regard s'arrêta sur l'étrange sculpture posée sur le bureau. Ce qu'elle avait pris initialement pour une œuvre abstraite et biscornue était en réalité une couronne d'épines. À défaut de lui offrir ce qu'il attendait, peut-être pouvait-elle imaginer une alternative. Elle s'approcha du bureau, souleva la lourde sculpture et la serra en se mordant la langue pour ne pas montrer sa douleur alors que les épines de la couronne trouaient sa peau. Elle regarda le jeune homme et reposa la sculpture sans se soucier des gouttes de sang qui perlaient sur ses doigts. Ferrante la regarda fixement pendant un long moment, la mine grave. Sans un mot, il prit le boîtier contenant le pistolet, traversa le bureau et entraîna sa visiteuse jusqu'à la salle d'attente réservée à la clientèle où il la laissa après lui avoir offert l'arme. Jane se rendit dans les toilettes attenantes où elle se savonna les mains à grande eau avant de les sécher, veillant à stopper les saignements à l'aide de serviettes en papier. Elle aurait été curieuse de savoir si Ferrante nettoierait les gouttelettes de sang qui maculaient le sol de son bureau comme celui du couloir, ou bien s'il conserverait précieusement le chiffon avec lequel il les effacerait. Tout bien réfléchi, elle aimait autant ne pas le savoir. Elle regagna la salle d'attente, s'installa sur le canapé et examina le pistolet en s'interrogeant sur le sens de son existence.